Le documentaire d'aujourd'hui nous est arrivé comme un conte de fées. Il était une fois, dans une banlieue parisienne lointaine, une petite maison. Sur sa façade un peu décrépite, s'étalait l'inscription en style 1900, Café de la Gare. Mais derrière ses murs, elle avait été vidée de ses habitants, de ses meubles et de sa vie. Maintenant, l'humidité est reine. La petite maison est bardée de fissures, ses fenêtres sont renforcées de constructions en bois. Elle était pourtant, il y a encore peu, le foyer où Marie, 25 ans, et sa sœur Anna, 23 ans, avaient passé la fin de leur enfance et toute leur adolescence. Aujourd'hui, elle vacille, secouée par le passage d'un tunnelier. Drôle de destin, un café de la gare qui ne résiste pas à la construction d'une gare de tramway souterraine. C'est un peu la version 2016 des Trois Petits Cochons. Antoine Tricot et Christine Robert nous conduisent dans cette maison de pierre qui se met à couler comme du carton.
On a déjà cassé un verrou comme ça. Est-ce qu'avec l'humidité, le bois joue ?
Ah, ça c'est les découvertes. À chaque fois, c'est « il y a une fissure, ah, il y a de la moisissure, oh, regarde, maintenant ça coule de là, oh, maintenant, regarde, ça coule d'ici. » C'est toujours un « je déteste venir dans cette maison. » C'est horrible, c'est stressant, c'est affreux. J'aime pas ça.
C'est une ancienne maison. Déjà, elle avait les autres maisons qui s'appuyaient un peu sur elle. Et du coup, elle semblait solide.
Parce qu'il y a un taux d'humidité maintenant qui est très important. Vous ne connaissez pas, et donc le bois moisit.
Il moisit en bas sur les boiseries que j'aimais tellement, du beau placard avec les portes coulissantes en chêne qui étaient très belles. Elles sont en train de s'abîmer. L'escalier est en train de s'abîmer, mais le taux d'humidité, il monte maintenant jusque dans la cuisine. Donc ça commence à moisir ici aussi.
Il faut ouvrir les placards.
Elle est étroite et haute.
Ça ferme plus.
Et sa peinture, elle est brune, un peu jaune.
J'ai marché sur une petite ampoule.
Surtout, il y a écrit Café de la Gare.
Tu y étais quand le tunnelier est passé ?
Avant, après, mais pas pendant, non.
Péril en la demeure. Un documentaire de Christine Robert, Antoine Tricot, Julien Douminc, Philippe Etienne et Laurent Macchietti.
Et j'ai appris la dernière expertise à lire les jauges. Il y a des jauges qui font yo-yo. Ça, c'est quand elles bougent. Entre chaque visite des experts, c'est quand elles bougent et qu'elles s'autorisent à bouger. Là, on appelle ça une jauge yo-yo. Mais on a plus de fissures que ceux qui ont des jauges yo-yo.
C'est nous qui avons la plus grosse.
Et le plus grand nombre. Bah oui, quand même.
En fait, ils calculent si le terrain est stabilisé ou pas. Et donc, d'après eux, à notre niveau, le terrain est stabilisé. Mais les jauges continuent à bouger parce que la maison elle-même continue à bouger. Parce qu'elle est construite en pierre de Meulière, mais elle continue à vivre et à subir et à réagir à au traumatisme qu'elle a subi. Elles sont là. La jauge 6, donc on en a 7.
En fait, ça allait assez vite. Déjà, il y a eu de l'eau.
Elle est positionnée au-dessus de la porte qui donnait dans le jardin, donc c'est une porte vitrée. La porte a été étrésillonnée.
Il y a eu ces barres en métal, l'étrésillonnage. Ça fait des espèces de poteaux métalliques en forme de croix ou tout droit afin de soutenir justement l'encadrure des portes et des fenêtres.
C'est trop bizarre.
Oui, il y avait ces fenêtres qu'on ne pouvait plus ouvrir, tout était difficile.
On entend la pompe d'évacuation d'eau de la cave qui se met en route à peu près toutes les deux minutes, on va dire.
Du coup, là, on est dans quelle pièce ?
Là, on est au rez-de-chaussée. Alors, c'était une cuisine, une entrée cuisine, salle à manger et bureau. Il reste quelques éléments de cuisine, il reste l'évier, il reste la plaque, mais sinon, c'est complètement vide. On a tout enlevé. Et c'est en très mauvais état. On avait autrefois une porte qui donnait directement dans le jardin et qui est condamnée là.
Il y a une porte rouge et un petit jardin en long. Voilà,
c'est un peu penché, comme vous pouvez sentir.
J'avais retrouvé dans le jardin une clé rouillée.
Penché côté, ils disent sud-ouest. La maison penche côté sud-ouest, voilà. Et fissure apparente.
Elle n'était pas droite, mais elle était solide.
Nombreuse, c'est varié. Au plafond, il y en a quelques-unes. Et au sol, si on regarde bien, elles ont même attaqué le carrelage. Bon, maintenant, on les mesure plus, honnêtement. Hein. Donc, on a arrêté ça parce que ça... c'était un peu stressant.
Là, il y avait la table. Une table ronde. Et alors, tu pouvais baisser les rallonges. Quand on était pas nombreux, des fois, même l'été, moi, je me retrouvais toute seule dans la maison. Alors, je baissais les deux rallonges et ça faisait une toute petite table que je mettais contre un petit meuble en bois dans lequel il y avait toute la vaisselle. La jolie vaisselle.
Et j'avais aussi un petit bureau, là.
Ah oui, ton petit bureau, Guillaume.
Pour qu'on soit dans la même pièce avec Cécile. J'avais installé mon petit bureau ici.
Et même, je me souviens que ici, en plus d'être le bureau, d'être la salle à manger, d'être l'entrée, on a même fait salle de répétition.
Quelle est votre profession ?
On est comédien. Qu'est-ce qu'on dit ? Artiste dramatique. Comédien, clown. Clown dans les hôpitaux, en ce moment.
Moi, je suis plus conteuse. Ouais. Quand même, elle est formidable, cette pièce.
Faites-vous petit et mince pour descendre l'escalier ?
C'est l'escalier du café de la gare. Pour le préserver de toute cette humidité, parce qu'il est en train de moisir, et ben, j'ai demandé à ce qu'il soit démonté. Ben, on ne peut pas le démonter, donc on ne peut pas le préserver. Donc là, il est tout malheureux. Il y a même le métal qui est en train de se corroder.
Là, on entend encore mieux.
Là, on entend très bien. Et ça sent une odeur affreuse. C'est... J'arrive pas à respirer. Je suis pas bien.
Donc, il y avait un très bel escalier ancien qui descendait à la cave. Et un nouvel escalier qui montait à l'étage. La cave, elle était toute blanche, des belles pierres. Monsieur, juste avant nous, il l'avait aménagée.
Ah oui. Eh, c'est une ancienne cave à charbon. Elle est voûtée dans le bon sens, on nous a dit. Dans le sens de la maison pour la soutenir. C'est des pierres, c'est de la meulière qui est apparente.
Et il y avait même des petits creux dans la pierre où je pouvais faire des installations.
Et alors ici, on avait fait notre salon, donc.
Elle était aménagée avec des tapis.
Il y avait des gros coussins, en fait, qui venaient de Syrie. Des gros coussins qui autrefois servaient qu'on mettait sur les ânes pour transporter du grain ou je sais pas quoi. Donc c'est des coussins qui font 1,20 m de... 1,20 m de long sur 70 de large. Il y a de l'eau là.
Sous l'escalier, il y avait mes 33 tours qui sont morts. Au moment où il y a eu l'eau qui a coulé pour la première fois. C'est des bâtards d'eau. Parce que d'abord, on a eu des inondations. Après, on a eu un petit abreuvoir qui permet de retenir l'eau. Il y a une pompe et puis l'eau, elle est envoyée dans les toilettes.
Évidemment, directement, nous, on a pensé ou au tram ou à la construction au passage du tunnelier ou alors à la construction de la gare souterraine parce que c'était juste 30 mètres au-dessus de chez nous. On a mis du temps aussi à voir exactement d'où est-ce qu'elle arrivait parce que ça se suintait directement dans le mur. Puis c'était avec les orages qu'on avait de l'eau, puis après on n'en avait plus, puis on en avait de plus en plus. Voilà, puis après c'était compliqué parce qu'ils ont fini par déterminer que c'était la canalisation des eaux pluviales et des eaux usées. Ils ont passé une caméra, ils ont vu qu'elle était cassée à certains endroits. De toute évidence, le tunnelier ou les travaux, ils ont une responsabilité. Mais là, ils nous ont dit, mais oui, mais... On n'a pas pu le savoir, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne sait pas dans quel état était votre canalisation avant. C'est pour ça que ça avance pas tellement au niveau de l'infiltration d'eau.
Puis alors là, c'est nouveau. On dirait qu'il y a c'est blanc ce qui arrive, comme s'il y avait de la peinture. Et ça, c'est aujourd'hui. Hein. C'est bizarre. Hein.
C'est très bizarre.
Il y a aussi une trace au sol à la place du canapé. Là, c'est assez récent, c'était il y a 2 ans à peu près. en fait, on a découvert nos fondations. C'est-à-dire qu'on est parti en exploration, et puis on a découvert, on a vu dessous comment c'était. On a vu la terre, puis on a vu un petit peu d'eau. Enfin, on a vu la couleur de la terre sous notre maison, ce qui est quand même assez intime. Ça fait une drôle d'impression de voir ce que d'habitude tu vois jamais, quoi.
Le dernier anneau, et après on voit la jupe au-dessus du tunnel. Il y a un petit vide, ça s'appelle le vide annuaire, et qui est comblé ensuite par le mortier. Le mortier cale le tunnel et imperméabilise le tout.
Il faut vous imaginer un tunnelier comme un long cigare qui fait à peu près 200 mètres de long. Vous avez à peu près sur les premiers 20 mètres les outils de coupe, et la roue de coupe. C'est un grand cercle qui fait 8 mètres 40 de diamètre. Il faut noter que le tunnel lui-même final, après la pose donc, du revêtement en béton, fait 8 mètres de diamètre intérieur.
Roger Ndouap-Molu, chef de projet RATP pour la construction du tramway T6.
C'est tout l'attelage mécanisé qui pose les petits morceaux du tunnel qu'on appelle voussoir, et donc il les pose anneau par anneau. Tout le train suiveur, c'est toute la partie entre guillemets de préparation des voussoirs, des utilités de la machine, et aussi la partie qui permet d'évacuer tous les déblais du creusement au fur et à mesure que le tunnel avance. Le gros avantage du tunnelier, c'est que les tassements sont vraiment minimes, parce que l'avantage du tunnelier, c'est qu'il creuse et il pose le revêtement définitif en même temps. Le bâti de Viroflé, on passait quand même largement en dessous de la couverture requise pour limiter les tassements. Pour les voies SNCF, pour les gares qui sont relativement anciennes, nous avons dû renforcer le terrain avant le passage du tunnelier. Sous le bâti privé, nous avions une couverture de terre suffisante. Il n'y a pas eu de tassement significatif, il n'y a pas eu de désordre sur le bâti privé.
Exactement sur le canapé, et puis j'étais en train de jouer du tuba, et au-dessus, j'ai senti sur ma tête tomber des bouts de... Enfin, tout bizarre, j'ai fait comme ça sur ma tête, et j'ai vu que c'était du sable, et j'ai relevé la tête, et j'ai vu cette magnifique fissure, là. Voilà, et je me suis dit, oula, ça c'est bizarre, la fissure, elle fait 2,50 m, 2 mètres de large, elle a une belle diagonale. Après, ils ont dit que c'était un coup de sabre. Elle doit faire, 3 mm d'épaisseur, de largeur.
C'est la jauge numéro combien, là ?
4. En fait, comme il y avait le tunnelier qui était en train de passer, qu'on entendait toutes les nuits, qui nous empêchait plus ou moins de dormir, je me suis tout de suite dit, ah, ça c'est mauvais signe. Ça veut dire que la maison, là, elle a bougé. Et donc, je suis monté à l'étage. Et c'est là que j'ai vu que je ne pouvais plus ouvrir la porte du jardin. Et j'ai vu les gonds qui étaient sortis de 2 cm, je me suis dit, ouf. Mais sur le moment, ça m'a pas plus inquiété que ça.
La maison de Carminati, de Laura Desprin. Mercredi 28 mai. Corne gibouille, ce n'est pas possible, je me suis fait encore piéger. Le temps d'aller jusqu'au potager chercher deux salades, et pio, elle a encore bougé, j'en suis sûre. J'avais mis une marque au pied du mur. Eh bien, la marque, elle est maintenant à plusieurs centimètres de la paroi. Et oui, pauvre de moi. Depuis quelques semaines, ma maison se déplace furtivement. Oh, pas de trop, 2 ou 3 centimètres à chaque fois. Mais vous comprenez qu'à la longue, ça peut poser des problèmes. C'est que mon jardin n'est pas immense. Je suis bien embêtée. Samedi 31 mai. Comme le terrain est en pente, j'ai d'abord cru, selon toute logique, que ma maison glissait. J'en ai parlé à mon voisin Nicodème, qui m'a conseillé de mettre des cales. Ça n'a pas marché. Comme Nicodème habite juste à côté et que la maison glisse dans sa direction, nous avons estimé urgent de trouver une solution. Tout d'abord, m'a-t-il dit, il faut observer ton logis pour tenter de comprendre quand, comment et pourquoi il se déplace ainsi. Nous avons donc établi un tour de garde, lui le jour et moi la nuit, et surveillons sans relâche la maison afin de la prendre en flagrant délit.
Là, juste à côté de la salle de bain, il y a la chambre de Marie qui donne sur le jardin. Puis on aperçoit le jardin des voisins à côté, puis tout au fond du jardin, il y a la cabane. Puis au-delà de la voie ferrée, on voit la forêt. Et puis on voit un petit clocher. Et le clocher, il a un petit coup dans le nez aussi, comme la maison.
Vendredi 6 juin. Peine perdue. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Au bout d'une semaine, nous nous sentons un peu fatigués et découragés.
Il y a les photos de Marie sur les genoux de son grand-père. Il y a son arrière-grand-mère. Il y a la photo de son arrière-grand-père. Il y a les photos de toute sa bande de copines de quand elles étaient en primaire. Il y a les pisteurs d'étoiles, et c'est des escargots qui font de l'échelle d'équilibre.
Voilà, je me suis approprié les murs de ma chambre à l'adolescence en les collant complètement de choses que je ramassais dans la rue, de papier, de cours de mes dissertes, de tout. Anna, tu peux dire ce que t'en penses aussi?
Oui, les murs. C'était plein de collages, ça montait jusque presque le plafond et a commencé à être mangé par les collages.
Voilà, jusqu'au jour où mon beau-père est entré dans ma chambre et j'étais sur une échelle en train de coller des CD au plafond et des bouts de papier. Et là, il m'a fait « Marie, stop !» Moi, je me servais de ma chambre comme une espèce d'exutoire pour l'emplir d'écriture, voilà, en faire vraiment une petite... l'intérieur d'une carapace d'escargot dans laquelle on se sentait bien, quoi. Et j'ai toujours pensé que ce lieu, qui était ma chambre dans cette maison qui était un peu spéciale, que ça allait toujours rester, que ça allait être une base. Et pour faire la conquête de l'espace, il faut qu'on ait une source, un lieu d'où on vient. Et moi, c'était ma chambre que je me suis appropriée. C'est un peu genre le ventre, quoi.
On les rend fragiles en les aimant, en fait, les lieux.
Ouais, et puis là, ce qui est incroyable, c'est que entre la chambre de ma sœur et ma chambre, c'était des toutes petites chambres de 9 mètres carrés. Et nous, quand on était petites, c'était la première fois qu'on n'était plus dans la même chambre. Et donc, on s'était dit, en fait, il faudrait qu'on creuse un trou entre les deux chambres, comme ça, on pourrait discuter ensemble, ce serait super. Mais là, il y a vraiment une fissure, c'est vraiment... voilà, on l'a presque notre trou. Enfin, non, on peut pas le voir à travers, mais vraiment, c'est la plus grosse fissure de la maison qui passe entre nos deux chambres.
Puis j'avais aussi appris à cette époque que c'était le mur porteur. Est-ce que c'était un mur porteur?
Voilà, et on nous a dit surtout, faut pas que vous creusiez de trou parce que c'est le mur porteur, c'est dangereux. Et maintenant, on a cette fissure qui sépare nos deux chambres et on se dit, ah, c'est dangereux.
Est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien, c'est trop drôle.
Ça marche.
C'est quoi le numéro de ta fissure?
C'est la 1.
C'est la 1? Moi, c'est la 2.
Faut que tu parles vraiment dans la fissure.
Oui, mon amour, je t'entends.
Lundi 9 juin.
C'est mieux comme ça.
Hier, Nicodème a suggéré, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui la gêne par en dessous. On ne sait pas tout des maisons. Nous sommes donc descendus à la cave afin de vérifier que tout allait bien. Comme nous ne trouvions rien de spécial, nous sommes ressortis et avons emprunté un ancien terrier communal, creusé par une quelconque bestiole et considérablement élargi par le garde champêtre afin que chacun puisse y circuler en hiver, comme à Montréal, vous voyez. Il se trouve que le terrier passe juste sous la maison et qu'en été, il n'est pas du tout fréquenté. Nous y avons stationné un moment et remarqué qu'il était agité de petits soubresauts. Alors Nicodème m'a dit gravement, « Ce n'est pas la terre qui gêne ta maison, c'est ta maison qui gêne la terre. Elle est sûrement mal placée, et du coup, ça la gratte. Attention, tiens-toi bien. » Sur ce,
Le terrier a été pris de convulsions. Nous avons été secoués dans tous les sens. Carminative, je suis désolée de te le dire, mais ta maison ne peut plus rester ici. La même mésaventure est arrivée à mon grand-père. Eh bien, il a été obligé de déménager.
Déjà, en rentrant, j'avais eu du mal à ouvrir la porte, mais je ne m'étais pas inquiété. Je suis descendue jouer du tuba, j'ai senti ça sur la tête. Je suis montée, déjà, je ne pouvais plus ouvrir la porte du jardin. Et puis, donc... Et j'entends, dans la maison, un grand crack, et je monte à l'étage, et je vois des fissures qui apparaissent. Et ça, c'est l'après-midi du samedi, j'ai eu quatre moments comme ça, où c'est assez étonnant, parce que tout d'un coup, hop, et je monte, il y a une nouvelle fissure, je me dis, voilà, oh ça va pas bien. Mais pour autant, j'ai pas du tout l'impression que la maison va me tomber sur la tête. Je me dis juste, eh ben merde, ils nous avaient dit qu'il se passerait rien, et malheureusement, il y a des dégâts. Et puis Cécile rentre.
Je rentre, et là quand je vois ça, en fait je contiens mon inquiétude en me disant, il y a des gens qui savent, quand mes filles, elles ont de la fièvre, que je ne sais pas ce qu'elles ont, j'appelle le médecin. Là, j'avais un numéro de portable d'un ingénieur, donc j'ai pris mon portable et j'ai appelé l'ingénieur qui travaillait pour le conseil général et le chef de chantier du tunnelier. Je sais pas, il devait être 21h. Hein. Ils sont venus à la maison. Et il devait être, je sais pas, il a dû mettre une heure à peu près à venir. Et pendant une heure, ça continuait de craquer. Et quand il est arrivé, quand ils sont arrivés tous les deux, ils ont téléphoné. Et en fait, le tunnelier était sous notre maison à ce moment-là. Donc il parlait sous notre maison. Moi, je trouvais ça drôle en même temps. Du coup, on était stressés, mais c'était rigolo parce qu'ils étaient juste en dessous. Et je me disais qu'il allait dire d'arrêter de le faire, puisque ça cassait notre maison. Mais en fait, ils n'ont pas du tout arrêté de le faire. Et puis, ils nous ont dit que la maison n'allait pas s'écrouler, et ils nous ont proposé, pour nous rassurer, si on voulait, on pouvait aller dormir à l'hôtel. Moi, j'étais crevée, Guillaume aussi. Et du coup, on a dit, on va réfléchir, et ils sont partis.
Surtout, oui, parce que déjà, on avait du mal à refermer la porte d'entrée. Et donc je me disais, là ça faisait déjà trois fois que je la rabotais, je me disais, si on passe la nuit ici, à tous les coups demain matin, on ne pourra pas rouvrir cette maison parce que je voyais le verrou. Et je me suis dit, de l'intérieur je pourrais démonter le verrou, mais de l'extérieur, il me parlait d'un serrurier, mais le serrurier, il fallait défoncer la porte. Donc je me suis dit, si on commence à défoncer la porte, ça va quand même être très compliqué, demain on est dimanche. Donc on s'est dit, non, ils nous ont dit qu'on ne risque rien, donc on va rester dormir.
Et ils nous ont rappelé pour nous demander ce qu'on avait décidé. On a dit, écoutez, voilà, vous en faites pas, on va dormir à la maison. Et là, ils nous ont dit, ah, mais nous, on serait plus rassurés quand même si vous dormiez à l'hôtel.
On dormirait mieux, tout le monde dormirait mieux si vous alliez dormir à l'hôtel. Et là, j'ai dit à Cécile, ah, mais alors, s'ils vont passer une mauvaise nuit, alors on va pas aller dormir à l'hôtel. Parce que nous, ça fait 4 nuits qu'on ne dort pas, donc s'ils peuvent passer une mauvaise nuit, ben... bien fait pour eux. Donc c'était un peu une réaction un peu simpliste, mais bon.
En fait, c'était voilà. Un peu n'importe quoi de pas y aller.
Puis c'est une confiance en la maison, voilà.
Ah, toi, t'avais confiance.
Moi, j'avais confiance en la maison. Moi, je l'avais vu déjà comme ça, je la voyais tenir, je n'avais pas tombé comme ça d'un coup.
Mais n'empêche, c'était pas raisonnable. Hein.
Et le lendemain, j'ai dû effectivement démonter le verrou parce que sinon, on n'aura jamais pu sortir, quoi. Enfin, bref.
Le verrou, il était cassé.
Quoi.
Il était carrément tordu, tout le gond. Enfin, le verrou, c'est long, c'est traversant, c'est en métal, c'est assez épais, ça fait 2 cm de diamètre à peu près. En métal solide, et ben il était tordu. Et c'était juste la maison qui avait tordu le verrou à l'intérieur de la porte. Et le lundi, on a eu le défilé du chantier. On a eu... La maison, elle était pleine comme un œuf de gars avec leur... casque, leurs bottes de chantier, ils étaient tous avec leur téléphone portable, ils découvraient le... Et il y en avait partout, quoi. C'est là où on a été invités à aller voir l'arrivée du tunnelier dans la gare. Et ça, c'était bien.
On a photographié, on a filmé, et on était conviés à 10h du soir. On pensait vraiment, parce qu'on voyait déjà le tunnelier qui commençait à attaquer la paroi, ça tourne dans un sens, ça s'arrête, il y a un temps, ça tourne dans l'autre sens, ça s'arrête, il y a un temps, ça tourne. Donc on a eu le temps vraiment de voir l'action de ce tunnelier C'était vraiment un spectacle grandiose, parce qu'en plus, comme c'était dans la gare souterraine, c'est une salle immense, donc le son résonnait.
Donc il faut bien s'imaginer que la station Viroflay, Rue Droite à l'époque, c'était juste un gros cube souterrain. Donc à un moment, on a vu, on a entendu des vibrations, on a vu la paroi qui commence à s'effriter par petits morceaux, mais toujours sur un cercle qui était à peu près respecté par rapport au dessin qui était fait sur le béton. Ce qui est impressionnant parce qu'il vient de parcourir à l'aveuglette 1 km depuis l'entrée et il arrive à la précision au centimètre sur le cercle qui est dessiné sur la paroi.
Parce que le tunnelier, c'est un petit peu comme une sorte de grosse râpe à parmesan circulaire. Et du coup, en fait, comme ça attaquait, il y avait des sortes de gros blocs de béton qui restaient suspendus au fil du béton armé. Ça faisait comme un mobile de caldaire, ça faisait des sortes de gros blocs qui bougeaient. Et du coup, ça faisait un son en plus du tunnelier parce que bah, il y a le frottement de la râpe sur ces blocs. Et puis, il y a de l'humidité qui arrivait. En fait, il y avait des sortes de coulées de boue qui arrivaient. Et ce qui fait qu'il y avait toutes sortes de gammes de gris foncé. Il y a la terre qui s'est faufilée, en fait, qui est arrivée, qui s'est engouffrée, en fait, dans la brèche qui était creusée par le tunnelier.
Donc, la roue de coupe grignote cette paroi qui s'effrite progressivement et qui, tout d'un coup, s'effondre. Et on voit donc l'engin qui apparaît.
Il y a une petite lumière dans la râpe qui s'est allumée et il y a un petit bonhomme qui est sorti, on aurait dit un Playmobil. Et là, on avait vraiment l'impression d'être dans Mad Max parce que c'est la machine énorme. Et le type, il est juste derrière, dans le métal.
Et les ouvriers applaudissent, le champagne. Et la jeune marraine du tunnelier, Nolwenn, qui est au CM2 à Viroflay, qui est là avec ses parents. Et donc tout le monde est tout sourire et... Donc ce sont des moments où on se dit on a passé une étape. Ce sont des moments où on se dit tous ces mois-là, tous ces efforts. Et ce sont des moments très très émouvants.
Et après on a bu le champagne avec les ouvriers qui n'en revenaient pas parce qu'ils étaient venus le matin voir notre maison qu'ils avaient cassée. Et puis ils buvaient le champagne avec nous. Et ils étaient tout contents parce que ça faisait, je ne sais pas, 3 mois qu'ils étaient là sur leur tunnelier. Et puis voilà, ils étaient contents, ils étaient fiers quand même. Il y avait ce truc-là. Ils étaient contents et soulagés qu'on ne soit pas fâchés avec eux. Mais en fait, tu n'avais pas envie d'être fâché à ce moment-là. Parce que quand même, c'était très gros, quoi. Tu sentais qu'il y avait un côté un peu magique et qu'il y avait des énormes enjeux, quoi.
Voilà la rame qui apparaît à l'horizon. Ça, c'est le grand jour. Hein.
C'est le grand jour, pas trop stressé.
C'est ému plutôt. Hein, et bon, c'est un long marathon, essoufflé, ému, mais très content. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 juin 2016. Et nous allons inaugurer donc la dernière phase, la phase B, la section souterraine du tramway T6. Donc le projet a été financé par la région, par le département des Yvelines, par le département des Hauts-de-Seine et par l'État. Et donc ces personnalités vont emprunter une rame et se rendre vers la section souterraine.
Votre discours est prêt ?
Je vais improviser.
Bon courage alors.
Merci. Merci beaucoup. Nous voilà à l'intérieur de la rame, qui est une rame fabriquée par New Translore. Filiale de Alstom. Donc c'est une ligne qui fait 14 km, 12 km en surface, 2 km en souterrain. Et c'est une ligne qui permet de desservir à peu près 150 000 personnes dans un rayon de 500 mètres autour de la ligne. Donc on voit tout l'intérêt de ce raccordement.
Nous apercevons donc au bout du virage l'entrée du tunnel.
Ce tunnel qui fait 1,6 km a été creusé au tunnelier. Donc le creusement a duré 9 mois.
Quel était le plus grand défi technique de cette portion ?
Déjà, en termes de géologie, nous avons plusieurs couches de terrain, du sable, des calcaires. En fait, on a tout le millefeuille parisien qui est représenté dans le trajet de ce tunnel. Et nous avons des nappes phréatiques. En plus, en dessous de la ville, nous avons du bâti ancien à Viroflay, donc des maisons qui sont construites en pierre, en meulière, qui sont beaucoup plus fragiles que les maisons en béton. Donc ils sont sensibles au tassement. Nous avons les faisceaux de passage des voies SNCF. Donc pour passer en dessous de ces voies, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de tassement, parce qu'un tassement millimétrique peut faire dérailler un train qui roule à 160 km/h. Donc avec la SNCF, nous avons négocié 2 ans à l'avance pour qu'ils mettent en place une limitation temporaire de vitesse pendant 1 mois, le temps de passer le tunnelier. Nous sommes partis. Nous avons à peu près 500 mètres à parcourir avec des pentes de 7,5%. Et enfin, il y a une rivière enterrée qu'on appelle le rue du Marivelle qui nous a obligés donc à faire le V à 7% entre les deux gares. Là, nous passons le point le plus profond du tunnel. C'est une ancienne rivière qui a été enterrée dans une canalisation. Et comme ceci est très ancien, la canalisation est relativement fragile. Et on est passé à peu près à 2 mètres en dessous de cette canalisation.
Terminus. Avant de descendre, vérifiez que vous n'oubliez
rien à bord. À bientôt sur les lignes RATP. Et voilà notre chambre. On est sous l'étoile. Et ça, c'est vrai aussi, la première fois qu'on est venu dans cette maison, qu'on a vu cette pièce, on avait commencé par voir la cave, on s'était senti bien, le rez-de-chaussée, la pièce nous plaisait, on avait vu qu'il y avait deux chambres pour les filles, on s'était dit, jusque-là, tout va bien. Et quand on est venu ici, on s'est dit, ah là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est exactement pour nous, quoi.
Ouais, mais maintenant, ça me stresse, en fait. Parce que c'est là où il y a eu l'incendie, et en fait, ça me fait trop d'émotions, en fait.
C'est là où on a senti. On était là quand il y a eu l'incendie. On était en train de dormir, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je sens une odeur qui est pas normale. Et je me dis, si ça se trouve, ça vient du chantier, des choses en plastique qui brûlent. Et puis, je me fais l'image en même temps du chantier. Je me dis, mais il n'y a pas de choses en plastique susceptibles de brûler. Donc, je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai vu que... C'était pas dehors. Donc l'odeur venait bien de la maison. Donc à ce moment-là, bah, c'est un peu la panique de... Il faut sortir, il faut s'habiller. Et en fait, toutes les BD, ce qu'il faut pas faire, on allume la lumière qu'il faut pas. Et on se rend compte qu'on voit rien, tellement il y a de la fumée. Donc on s'habille... comme on peut très vite et puis on descend dehors et heureusement il n'y avait pas de flamme donc on a pu sortir et parce que sinon je pense que on serait plus là quoi. On s'est retrouvé dehors voilà, Cécile était même pieds nus, je suis retourné lui chercher des chaussures. On était en plein sommeil, quoi. Enfin, on dormait depuis 1h30. Les pompiers nous ont dit si vous étiez endormi depuis 2-3 heures, vous seriez sans doute pas réveillé. Donc, comme ils disent, vous avez eu de la chance. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, ça. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de chance, vous savez. C'est-à-dire que tout d'un coup, du jour au lendemain, on est chassé de la maison et on n'y retournera pas. Enfin, il y a quelque chose où tout d'un coup, on se retrouve dehors et on se dit, ben, là, voilà, je suis chassé de ma maison. Et je dormais dans mon lit et je ne retournerai plus dans ce lit. Et avec tout ce qui se passe autour de la maison, par ailleurs, depuis... le passage du tunnelier, les infiltrations d'eau plus l'incendie, au jour d'aujourd'hui on ne sait pas si un jour ou l'autre on reviendra dans cette maison. Donc c'est ce qui est un peu douloureux quoi, en ce moment. Enfin en ce moment c'est... Mais c'est aussi ce qui nous a permis de quitter cette maison. Sinon, on était en train de se battre avec ces infiltrations, avec ces odeurs, avec ce truc qu'on ne peut pas aller dans notre jardin, avec ce stress de voir des fissures tous les jours nouvelles, de se dire mais est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on fait bien de rester là, on ne peut plus aérer, elle n'est plus très saine. Et donc tout d'un coup, on n'habite plus cette maison et on n'a plus ça sous les yeux. Donc c'est aussi, c'est vrai, une sorte de soulagement. Mais ça reste douloureux.
Lundi 9 juin, soir. Vous imaginez bien que je suis très triste car je ne veux pas quitter ma chère maison. Quand même, me dis-je, toute cette histoire est un peu bizarre. Comment se fait-il que mon logis ne bouge que quand nous ne sommes pas là ? Et pourquoi tout à coup deviendrait-il indésirable sur ce sol alors que nous y sommes implantés depuis des générations ? Non, décidément, tout ça ne tient pas debout, il y a autre chose.
Ce qui arrive à notre maison, ce qui s'écroule, ça lui ajoute de l'importance. On se rend compte à pourquoi elle était importante pour nous. Parce que c'est quand même la maison où on grandit, c'est un lieu dans lequel on se construit. Surtout pour moi, c'était la période du passage de l'enfance à la vie de plus enfant. Et je sens mes parents plus fragiles. Donc d'un côté, ça m'oblige à être plus forte. Ça oblige à faire un deuil, à passer le cap. Quand le tunnelier est passé, ma mère est venue nous rendre visite assez rapidement après à Berlin. Et la chose qu'elle voulait absolument nous montrer, c'était les vidéos qu'elle avait prises à l'arrivée du tunnelier où elle avait été invitée parce que le tunnelier avait fait bouger la maison de 2 cm et on a passé un repas où ils n'ont pas arrêté de rigoler sur le fait que quand même c'était incroyable et la porte elle s'ouvre plus, ha ha ha. Et moi j'étais, mais la maison est cassée, et ils étaient, ah oui, elle est toute cassée, ha ha. Donc ça c'était la première réaction, ils m'ont impressionnée. Ensuite, ce que je trouvais qui était dur, c'est qu'ils se sont accommodés, comme ils prenaient ça avec humour, ils se sont accommodés et puis ils sont restés. Et puis, il y a eu l'eau qui a commencé à couler. Donc, la maison était extrêmement humide. Et là, une fois où je suis venue, je me suis sentie suffoquée. Donc, je me disais, il ne faut pas qu'ils restent habités là-dedans. Et ensuite, il y a eu le feu et ils ont failli mourir. Donc, ça, c'était quand même très difficile. Et d'une certaine manière, je dirais, heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'ils étaient en train de s'accommoder à cette situation invivable et de vivre dans ce lieu inhabitable. Ils étaient en train de dépérir et vraiment, physiquement, ma mère, elle se devenait vieille, comme elle disait. Et là, depuis qu'elle est partie de cette maison, c'est comme une fleur qui avait un vase qui n'avait plus d'eau. Maintenant, elle est remise dans le vase où il y a de l'eau et elle va beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir de la distance avec ce lieu parce que c'est pas bon pour eux non plus.
Et donc, on a trouvé cette maison qui est donc notre fausse maison, parce que ce n'est pas notre vraie maison, c'est une maison dans laquelle on est en stand-by, en attendant. On ne sait pas combien de temps.
C'est comme, toi, c'était ça hier, tu disais en transit.
On est comme en transit. Dans un aéroport, on est en transit entre deux vols, donc on ne sait pas si on va continuer. C'est parce qu'on sait, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir retourner un jour dans cette maison. Donc on ne sait pas si on va devoir continuer ailleurs ou si on va pouvoir revenir. Mais on ne sait pas à quelle heure est l'avion. Quoi. Donc,
ça, c'est mon cahier. Ça, c'est la partie non numérisée de l'affaire.
Alors.
Attends, tu prends le gros dossier et trier. Moi, je prends le dossier, je prends les petits trucs triés.
Il y a l'expert qui était venu initialement, il est revenu 3 jours après. Et donc il a constaté qu'il y avait des nouvelles fissures et il a écrit noir sur blanc que c'était dû au passage du tunnelier. On l'a quelque part dans le tiroir où il y a toutes les affaires de Dieu.
L'évaluation de la maison, la préparation des réunions, tribunal de Versailles, on y croit. Tribunal de Versailles.
C'est là quelque part. Hein.
Non, ça, ça doit être l'expropriation du tréfonds. Requête en référé, instruction, section souterraine du tramway de Viroflay, zone 1 à 12, article, machin, bidule, chouette, c'est le 9 mars 2011. Second constat de l'état de la maison le 16 janvier 2014.
Voilà, c'est ça. Importante queue de billard en pointe, longue fissure, fissure importante, fissure dans le bâti, et alors, voilà. Les désordres relevés ci-dessus ont pour origine les travaux de construction du TCSP Viroflay engagé sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil général des Yvelines. Voilà. Donc cette petite phrase, elle vaut de l'or.
Depuis la dernière visite, la société Eiffage indique avoir mesuré un tassement maximum de la maison de 10 mm. Ce tassement n'est pas consolidé et peut encore s'accentuer en provoquant un élargissement des fissures constatées ou de nouveaux désordres.
Parce que les tassements, qui initialement étaient de 10 mm, ils sont passés assez vite à 15, puis à 19, puis à 21. Je crois qu'on a atteint 21 mm. En ce moment, ils sont enfin en train d'essayer de voir concrètement les possibilités techniques pour remettre cette maison d'aplomb. Mais à chaque niveau, ça peut être bloqué. La personne peut très bien dire, finalement, c'est trop compliqué de refaire cette maison. On peut très bien dire, c'est trop cher. Nous, on n'est pas prêt à mettre cette somme parce que ça correspond à une somme supérieure à la valeur de votre maison. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il en est? On ne sait pas. Et après, une entreprise, enfin, il peut mettre beaucoup de temps avant de trouver une entreprise qui est capable de le faire. Enfin, c'est ça, non? Voilà où on en est pour la maison. Ça frotte. Parce que ça a bougé, ça frotte.
On pouvait même plus l'ouvrir, les deux portes
j'ai dû,
là.
J'ai dû casser ici, là.
Bon, ça, c'est les retrouvailles avec le jardin, le vrai jardin. Mais le pauvre vrai jardin, on n'a plus le temps de s'en occuper parce qu'on n'est plus là. C'est une sorte de jungle terrible, en fait, maintenant, ici. Il y a de la vigne vierge qui a poussé partout et d'une façon mais incroyable. Je vois à quel point je manque à mon jardin. Oups, là, il y a plein de fleurs fanées partout, plein de roses fanées partout. Et on a testé de ramener les roses dans la fausse maison, celles qui sont en bouton, et ça marche pas, elles fleurissent pas.
Non.
Donc on est obligé de les laisser là.
Ils étaient tout à fait heureux avec leur jardin qui ressemble à une petite jungle remplie de fleurs, qui est un jardin magnifique, cette maison qui leur va tellement bien.
Il y a de la mousse.
Ils sont faits comme... Enfin, la maison et eux, c'est une unité. Et en fait, ça change quelque chose dans la famille parce que maintenant, dans l'autre maison que l'assurance leur paie, c'est comme s'ils étaient... C'était pas dans leur milieu naturel. Et ça, ça change quelque chose d'avoir ses parents qui n'ont plus de chez soi. Même s'ils ont un toit sur la tête, mais c'est plus chez eux.
Il faut absolument qu'on vienne tailler les fleurs du lilas qui sont fanées.
Cécile disait, on manque à notre jardin, on manque à notre maison aussi. Et on le voit. C'est assez douloureux, en fait. Parce qu'on aime énormément notre maison. Et puis de voir l'état dans lequel elle est, qu'elle s'abîme de plus en plus, ça, c'est vraiment un sentiment de grande tristesse, de déchirement, de ne plus pouvoir vivre dans cette maison et de ne plus pouvoir la faire vivre, parce qu'on voit qu'elle, comme on n'est plus là, elle s'abîme. Pareil pour le jardin.
Ça vous bloque sur l'ensemble de votre vie?
Ouais. Ça nous empêche concrètement de faire des projets d'avenir parce qu'on est dans une incertitude et qu'on a cette espèce de... Ouais, ce boulet qui nous retient.
Voilà, c'est qu'est-ce que c'est, comment on se projette, quoi. Et en fait, on ne peut pas se projeter. Parce qu'ils ne savent pas. Hein. Mais des fois, ils nous disent, ouais, si on doit passer en judiciaire, ça se trouve, il y en a pour 10 ans. Donc, bah, 60 ans, qu'est-ce que je vais faire quoi, quand je vais retourner dans ma maison? Je sais pas. Et du coup, c'est ça qui est bizarre.
Et on sait pas, quand on saura non plus.
Mercredi 11 juin. Aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque emprunter un ouvrage de référence sur la vie des maisons. Et j'y ai découvert que certaines bâtisses finissent par trouver le temps long, toujours au même endroit, que la terre peut aussi se lasser de porter toujours la même bicoque, et que pour peu que les maisons sachent bien s'y prendre, elles peuvent se faire la malle, tout doucement, avec l'aide du sol sur lequel elles sont posées. Au moment même où je lisais ça, mon logis a bougé d'un coup. J'ai fait un bond en l'air, puis en retombant dans le fauteuil, j'ai entrevu la solution. Eureka! Il suffit de déménager la maison. Comme le terrain est en pente, en nous y mettant nombreux, nous devrions pouvoir la pousser, traverser le champ de Nicodème et nous installer en face de l'autre côté de la route. Samedi 14 juin. L'été arrive et je n'ai rien prévu cette année. Mon logis à la bougeotte. Si nous en profitions pour faire un petit voyage, rien que nous deux sur les routes. Après tout, avec un peu d'élan, ça ne doit pas être impossible. Il y a bien des mobilhomes, des caravanes et tout le tintouin. Pourquoi pas une maison? Au moins, j'aurai tout le confort. Et mon doux foyer a l'air d'être très doué pour se balader. Voilà une idée à creuser, si je puis dire.
Olivier Lebrun, maire de Viroflay, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Un homme heureux. Merci de nous accueillir, vous êtes notre hôte.
Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Vous pouvez être fiers, monsieur le maire. Je tiens aussi à remercier les services municipaux qui ont collaboré quotidiennement avec les services du conseil départemental des Yvelines pour faire en sorte que ce chantier se fasse le plus discret possible et c'était une gageure dans Viroflay. Tous mes remerciements les plus sincères vont aux riverains de ces chantiers titanesques. 5 années durant, vous avez vu défiler sous vos fenêtres des centaines d'engins dont certains étaient tout simplement exceptionnels. Beaucoup se souviendront longtemps de cette remorque gigantesque d'une douzaine d'essieux qui a circulé nuitamment et pendant plus d'un mois dans les rues étroites de la rue droite pour évacuer les morceaux de plusieurs dizaines de tonnes du tunnelier parvenu à la fin de son périple et extrait du trou de la rue droite. Les plus impactés d'entre vous ont eu l'occasion de visiter ce chantier qui vous a permis de vous familiariser avec lui et avec les équipes qui l'investissaient chaque jour. C'était le meilleur moyen de vous rassurer.
Tout le monde est très content, mais voilà, personne n'a parlé de notre maison. Et moi, j'oublie pas qu'à cause de ce tram, j'habite plus chez moi. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Voilà.
Le tunnel est parti, est passé, sous plusieurs centaines de maisons.
Pierre Bédier, président du conseil général des Yvelines.
Donc, il y a naturellement un problème et on va regarder. Avec les experts, et si ces expertises concluent, ce qui paraît être une évidence, au fait qu'il y a eu des dommages matériels créés par le tunnel, naturellement il y aura indemnisation. Là en l'espèce, c'est 90 000 emplois, 150 000 habitants, 60 000 clients quotidiens qui vont bénéficier de cette infrastructure. Alors il n'y a aucun mépris de ma part à l'égard de ces trois familles concernées. Et on traitera le problème avec humanité. Mais il fait bien comprendre que l'intérêt général était de faire cet équipement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'ai pas pu vraiment accéder au cercle un petit peu plus... le VIP parce que j'avais pas de carton d'invitation. Donc j'ai pas pu vraiment me faire identifier auprès du maire parce qu'il nous connaît. Peut-être que s'il m'avait vu, il aurait peut-être eu une pensée, encore eu peut-être un petit mot, j'en suis pas complètement sûr, mais voilà, c'est la fête du T6, c'est la fête du T6, on en est exclu.
J'ai croisé quelques personnes dans la foule qui étaient des gens que j'ai croisés pendant les travaux et qui ne s'engageaient pas pour que notre maison soit réparée. La seule parole qui m'a été dite, c'est « Oh oui, mais votre maison était un petit peu vieille. » Bah, si elle était trop abîmée Au départ, avant le passage du tunnelier, ils sont venus pour le constater. Ils auraient pu décider, comme ils l'ont fait pour les autres infrastructures qui étaient autour de la maison, de les consolider, ou alors d'assumer leurs responsabilités, de dire que cette maison était trop vieille, de nous proposer un dédommagement. Et comme ça, on n'aurait pas subi les préjudices de toute la suite de cette histoire. En fait, on néglige les personnes. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui, donc je suis un petit peu déçue.
Mais c'est de la mauvaise foi, parce que si la maison avait été moderne, c'est-à-dire que si elle avait été construite en béton, elle se serait écroulée. C'est parce qu'elle était ancienne qu'elle n'est pas tombée. Du fait qu'elle est construite en meulière, du coup, ces maisons-là sont prévues pour encaisser plus ou moins les affaissements de terrain. Et si elle avait été en béton bien dur, eh ben, le béton bien dur, il aurait craqué et peut-être que la maison, elle se serait du coup écroulée. C'est énormément de mauvaise foi de dire que la maison était ancienne. J'ai envie de répondre, et alors ? Elle était là depuis 1880, elle tenait bien malgré le train qui passait juste au-dessus. Donc, s'ils avaient bien fait leur travail, elle n'avait aucune raison de bouger.
Notre marraine. Voilà, vous pouvez la photographier. Elle est avec sa maman. Elle est un peu émue. Maintenant, de vous positionner devant chacun des rubans. Madame Borne devant ce ruban rose. Pierre Bédier devant le ruban rouge. Patrick Devésian devant le ruban bleu. Venez avec moi, Valérie Pécresse devant celui-ci, Monsieur le Préfet devant celui-là, Nolwenn et Monsieur le Maire devant celui-là. C'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on tire, voilà. Voilà.
Péril en la demeure, avec Cécile, Guillaume, Anna, Marie et leur maison, l'ancien café de la gare de Viroflay.
C'est Guillaume qui arrive. J'adore ce son. Ça, c'est le son de la maison. Ça, j'ai l'impression d'être à la maison.
Anna, est-ce que vous pourriez dire que vous l'aimiez, cette maison ?
Oui. Mais je l'aime encore. Je sais pas ce que je peux rêver pour cette maison, si ce n'est déjà qu'il y ait des traces de ce qu'elle a été. Après, son avenir est étrangement lié à celui de mes parents. Donc, de ma mère et de mon beau-père. Donc, est-ce qu'elle deviendra... J'espère qu'ils pourront la resolidifier. Ou qu'elle pourra se déplacer. Vraiment, cette fois-ci. De l'emmener ailleurs où elle arrêterait de se faire secouer.
Prise de son, Laurent Macchietti et Philippe Etienne. Mixage, Julien Douminc. Au tuba, Guillaume. Merci à Roger Ndouap-Molu, Pierre Bédier et Olivier Lebrun. Merci également à Laure Benchaik et à toutes les équipes travaillant sur le chantier du tunnel de la ligne 14 à Saint-Ouen. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docks.